Bonsoir à chacun. J'invite à faire une première lecture dans Marc, chapitre 10. Ce message est un petit peu la suite de dimanche après-midi et un petit peu la suite de dimanche matin, finalement. Dans Marc, chapitre 10, nous voyons justement une question qui est posée à un homme qui a amené la bénédiction dans sa vie. Et je crois que c'est une question qu'on voudrait tous que le Seigneur puisse nous poser. Marc chapitre 10, verset 46, s'agit de Bartimée qui a vécu une expérience avec le Seigneur. Vous connaissez cette histoire. Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le !» Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Est-ce que vous aimeriez pas que le Seigneur vous pose cette question? Que veux-tu que je te fasse? Et je crois qu'on aimerait tous, mais qu'est-ce que nous répondrions à cette question? Est-ce qu'il a bien répondu, Bartimée? Mais je crois que pour lui, c'était le mieux qu'il pouvait demander, vu qu'il était aveugle, de demander à retrouver la vue. Est-ce qu'il s'était adressé à la bonne personne? Bien sûr, le Seigneur Jésus est tout-puissant. Et juste au-dessus, on voit au verset 35 quelque chose de particulier. C'est comme si le Seigneur avait repris la même question à des personnes pourtant qui étaient beaucoup plus proches que Bartimée. C'était ses disciples. Regardez au verset 35, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ils sont proches de Jésus. Ils s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit: « Que voulez-vous que je vous fasse ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans la gloire. » Jésus leur répondit: « Vous ne savez ce que vous demandez. » Amen. La même question qui est posée à ces personnes: est-ce qu'ils ont été bénis par la réponse du Seigneur ? Oui, dans un sens, mais pas à la façon dont ils attendaient. Ils ont entendu une réponse qui était totalement différente. Jésus leur explique, vous lirez la suite, hein, la réponse qu'il leur dit, que ça a été donné seulement à certaines personnes et que ce n'est pas lui qui en décide, ça ne dépend pas de Jésus. Et ce soir, je voudrais dire qu'il y a des fois, dans ce que nous demandons au Seigneur, il y a des choses qui ne dépendent pas de Dieu. Vous allez dire, il n'a pas la foi, il est incrédule. Non, il y a des choses des fois qu'on demande au Seigneur, mais c'est des choses que lui nous demande de faire. Et que ça ne dépend pas de Dieu dans le sens que ça ne sert à rien de le prier. On a entendu une prophétie qui nous disait que ça ne sert à rien de prier, de multiplier de vaines paroles quand on prie. Il vaut mieux avoir une parole inspirée par le Saint-Esprit, un sujet de prière que Dieu met sur notre cœur, avec la flamme du Saint-Esprit qui grave sur la tablette de notre cœur, et après prier, intercéder dans ce sens-là. Et souvent, on est comme ses disciples, on demande des choses au Seigneur, mais on ne sait pas trop ce qu'on demande. Ou alors, on demande mal. Jacques dit, justement, il y a des fois où on demande mal. On le demande dans de mauvais motifs. Et c'est vrai, quand on considère les motifs qu'ils avaient, il y en a un, il voulait être à droite, l'autre, il voulait être à gauche. C'est un motif de grande humilité, hein, on est d'accord. Dans le ciel, surtout, en plus. Même, c'est pas sur la terre, c'est dans le ciel. Être à la droite et à la gauche du Seigneur. Que diriez-vous d'un homme qui vient de faire son footing, qui est tout transpirant, qui rentre chez lui, qui se met à prier: « Seigneur, lave-moi » Qu'est-ce que vous penseriez de cet homme? Mais il n'a qu'à y aller, hein? Qu'est-ce qu'il attend? Et Dieu pourrait lui dire: « Je t'ai donné la grâce d'avoir un toit, d'avoir une douche, je t'ai donné la grâce d'avoir un travail, de pouvoir te payer le savon et l'eau, alors maintenant c'est à toi de te laver. » Et qu'est-ce que vous pensez de ces prières? Des fois on les prend dans les chants, mais il faut bien les comprendre. Des fois on chante « Rends-moi saint, purifie mon cœur. » On a des chants comme ça qui disent ces paroles. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on chante cette parole que le Seigneur va nous purifier. Il nous dit, purifiez-vous, lavez vos cœurs. C'est à nous de faire ce que Dieu nous demande. Et quand on chante ces paroles, on exprime au Seigneur notre désir, mais dès qu'on a fini de le chanter, quand on se retrouve dans notre chambre, c'est ce qu'on fait. Seigneur, merci pour le sacrifice de Jésus qui me lave de tout péché. Je peux être lavé maintenant. Et par la foi, c'est ce que je fais. Vous êtes d'accord? C'est des bonnes façons de faire. Alors ce soir, je ne veux pas savoir ce que vous demanderiez au Seigneur. Je voudrais vous donner trois choses que vous pouvez demander avec assurance. C'est sûr que c'est des choses que Dieu se plaît à exaucer. Demandez. Monsieur Gault nous disait, rappelez cette parole de Jésus. Moi, je vous dis, demandez. Et ce soir, je voudrais aller peut-être un petit peu continuer cette pensée-là en vous donnant des indications sur ce qu'il nous faut demander. Esther, chapitre 5, verset 1er. La première chose qu'il nous faut demander, enfin une des choses, parce qu'il n'y a, pas forcément d'ordre, et une des choses qu'il faut demander, elle se trouve dans ce livre d'Esther. Vous avez déjà lu le livre d'Esther? L'histoire d'Esther? Il y a de belles choses qui se passent dans ce livre. Esther chapitre 5, verset 1er. Il est dit ceci, « Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther ?» « Que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Je vous fais grâce de l'histoire, vous la relirez à la maison. On va au chapitre 7, verset 1er. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Amen. » Accorde-moi la vie. Est-ce que c'est une bonne prière? Oui, c'est une bonne prière. Cette histoire, c'est un type de ce que l'Église doit faire face au Christ. Et nous ne pouvons pas nous approcher n'importe comment de Jésus. Il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir s'approcher même de la présence du Dieu Tout-Puissant, c'est de passer par ce moment où on réalise que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, par le chemin qui est Jésus-Christ. Si nous faisons cela, alors Dieu, c'est comme s'il nous tendait son sceptre et nous pouvons être accueillis dans sa présence et nous pouvons dire au Seigneur les choses qu'il y a sur notre cœur. Qu'est-ce qu'elle a fait cette reine alors que son peuple était prêt à être détruit par la méchanceté d'un homme, Aman? Si vous connaissez l'histoire, vous savez de quoi je parle. Cette femme a choisi d'intercéder, a choisi de s'adresser à cette personne qui était le seul qui pouvait faire quelque chose, et a choisi de faire cette demande particulière, « Accorde-moi la vie ». Est-ce que la reine Esther, elle avait la vie? Ben oui, elle respirait. Est-ce qu'elle aurait pu s'en sortir, vu sa position? Parce que le problème, c'était le peuple juif qui était réparti dans l'Empire. Mais elle qui était la reine, même si le roi ne savait pas qu'elle était juive, elle aurait pu s'en sortir en ne disant trop rien. Mais elle a choisi de s'identifier. Elle a choisi de participer, de dévoiler son cœur même, de dire à cet homme, qui, avec tous les risques que cela comprenait, déjà le simple fait de se présenter dans la présence du roi, c'était un danger, mais en plus de dire qu'elle était juive dans les circonstances de cette époque, c'était un danger particulier. Et il y a quelque chose qui se passe quand quelqu'un choisit de demander au Seigneur, « Accorde-moi la vie ». Il y a quelque chose qui se passe parce que Dieu est celui qui se plaît à accorder la vie à ses enfants. Dieu est celui qui se plaît à bénir, Dieu est celui qui se plaît à changer les situations.
Aussi, cette femme, elle a eu ce courage de surmonter sa peur. Elle a demandé cette simple chose. Est-ce qu'il y avait besoin qu'elle fasse quelque chose à ce moment-là? C'est évident que oui. Sinon, elle explique bien. Nous sommes vendus pour être détruits, égorgés, anéantis. Ça ne vous rappelle pas un verset dans l'Évangile? Où le voleur ne vient que pour faire quoi? Égorger, dérober, détruire. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Si on considère notre monde, est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui quand on voit des hommes et des femmes qui sont, non seulement ils commettent le péché, mais certains qui sont vendus au péché? On voit des hommes et des femmes qui sont détruits, des hommes et des femmes qui sont comme égorgés par la vie, qui sont comme arrêtés et qui n'ont plus aucune force pour avancer, qui sont totalement détruits à l'intérieur. Est-ce qu'on n'a pas besoin ce soir en particulier de dire, Seigneur, s'il y a bien une chose que je veux te demander, c'est la vie. Oui, peut-être la vie, pour moi, je l'ai déjà reçue parce que je te connais, mais je veux non seulement demander la vie pour moi, mais la vie pour tous ceux qui m'entourent, pour ceux de ma famille, pour ceux de mon peuple, excusez-moi l'expression, pour ceux qui me sont chers, pour ceux que j'aime, ceux que je veux qui t'appartiennent. Seigneur, j'ai besoin de la vie. Vous savez que, alors que j'étais dans une église auparavant, j'avais entendu cette pensée impressionnante. C'est que il y a des satanistes qui jeûnent et qui prient pour que les mariages s'arrêtent totalement, que les gens divorcent, que les familles se divisent, qu'ils finissent dans la haine, dans la séparation, etc. Les satanistes qui prennent du temps pour prier Satan, donc jeûner et prier pour que les familles soient détruites. Pour tout ce que Dieu a créé bon soit détruit. Et qu'est-ce que ça nous fait à nous quand nous savons ce genre de choses? Est-ce que ça nous indiffère? Ou est-ce qu'on ne peut pas être comme Esther en disant, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a la douleur autour. C'est vrai qu'il y a les larmes. C'est vrai qu'il y a la séparation. C'est vrai qu'il y a les divorces. C'est vrai qu'il y a l'ennemi qui voudrait faire des ravages, même dans le peuple de Dieu. Mais moi, je ne veux pas rester indifférent. Moi, je ne veux pas rester dans l'abattement non plus. Je veux, Seigneur, te prier, accorde la vie. Déverse ta vie dans ces situations, là où l'homme ne peut plus rien faire, là où l'homme est arrivé à ses limites, le Seigneur, lui, est toujours capable de faire quelque chose. Le piège, quand on voit de manière claire ce qui se passe, le piège, quand on regarde et qu'on voit qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent, ce que je viens de décrire, le piège, c'est de s'arrêter et de rester découragé. Vous savez, la prière qu'il a faite, Jonas, à un moment donné, il a dit, Seigneur, prends-moi donc la vie. Il n'a pas demandé la vie dans la situation, mais il a dit, prends-moi la vie. La mort m'est préférable à la vie. Et des fois, on est tellement omnibulé par les problèmes qu'il y a. Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, mais on est tellement des fois les yeux fixés sur les problèmes qu'on est dans cet état d'esprit de dire, Seigneur, reprends-moi. J'en ai assez de ce monde, je préfère aller dans le ciel, au moins je serai en paix. Et est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Mais ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse beaucoup plus, et si on entend cette question ce soir qui nous dit « Que veux-tu que je fasse ?», que nous puissions avoir ce cœur qui dit « Seigneur, accorde-moi la vie, sauve-moi et mon peuple, fais quelque chose de divin parce que j'ai besoin de ton intervention. » Vous savez que le prix à payer pour avoir la vie, c'est le courage de dévoiler son cœur. Bien sûr, c'est d'abord, avant tout, le prix qui a été payé sur la croix. Jésus, il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Mais il a dit juste avant que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si nous pouvons obtenir de la présence de Dieu la vie qui vient du ciel, c'est parce que Jésus a donné sa vie. Mais de notre côté, ça demande le courage de dévoiler notre cœur. C'est ce qu'a fait Esther. Elle a dévoilé son cœur. Elle a dévoilé qu'elle était juive. Elle a dévoilé sa situation. Elle a dévoilé aussi son besoin. Et le résultat, c'est que Dieu a changé le mal en bien alors que les Juifs devaient être persécutés de manière incroyable. Vous connaissez l'histoire, comment Dieu a changé la situation. Et les gens, même par crainte d'être battus, beaucoup se sont fait juifs à cette époque. On ne sait pas s'ils étaient très sincères, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé, par crainte. Dieu est celui qui change le mal en bien. Est-ce que nous sommes de ceux qui viennent au pied du Seigneur Jésus pour chercher la vie? Vous savez ce qu'il disait le Seigneur aux pharisiens. Les pharisiens qui connaissaient la Bible par cœur, la Bible de l'époque. Il leur a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi. pour avoir la vie. Le seul qui peut nous apporter la vie ce soir, dans notre situation. La vie, ça veut dire tellement de choses dans la parole de Dieu. Mais ça veut dire nous donner ce dynamisme, nous donner exactement ce que nous pouvons, ce que nous avons besoin pour avancer à nouveau. Quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est découragé, a besoin de ce souffle de vie à nouveau. Est-ce que les os dans la vallée des ossements desséchés, ils n'avaient pas besoin de souffle de vie sur eux? Mais sinon, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Hein. À part bronzer au soleil, sinon je ne vois pas trop ce qu'ils pouvaient faire. Mais est-ce que nous n'avons pas besoin de dire « Seigneur, ce que je veux te demander ce soir, c'est tout simple. Accorde-moi la vie. Accorde-moi la vie. Accorde la vie à mes enfants. Accorde la vie à mes frères et sœurs charnels, ceux de ma famille, mais qui sont loin de toi, qui ne te connaissent pas. Seigneur, je veux avoir ce cœur qui intercède, ce cœur qui choisit de justement prendre à cœur ces choses, qui choisit de supplier le Seigneur, qui choisit de passer du temps. Vous savez, quand la reine Esther, elle a voulu se présenter devant le roi, elle a demandé que beaucoup de personnes puissent s'allier avec elle pour jeûner, prier pendant 3 jours. Elle n'est pas venue n'importe comment. Elle n'est pas venue en pensant que c'était gagné d'avance. Elle a pris du temps devant Dieu. Et des fois, nous sommes là, peut-être, tellement nous avons un Dieu bon, un Dieu plein d'amour, on oublie qu'au dehors, il y a des gens qui sont dans la mort. On oublie que dans nos familles même, il y a des gens qui sont dans la mort. Des fois, on le sait, mais on ne fait pas ce qu'il faut. Cette simple prière, accorde-moi la vie, fais ton œuvre. Il n'y a que dans la présence du roi des rois que nous pourrons la trouver. Regardez dans 2 Rois, une seconde prière. 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Là aussi, c'est un passage qu'on connaît peut-être encore mieux que le précédent. Et je ne vais pas vous faire le récapitulatif de ce qui a déjà été annoncé par rapport au parcours. Vous savez, c'est Élie et Élisée. Élisée qui passe les derniers moments avec Élie. Et qui font tout un parcours en allant de Gilgal à Bethel, puis à Jéricho, puis au Jourdain. Je voudrais qu'on puisse lire au verset 9, quand ils ont passé le Jourdain. Lorsqu'ils l'eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. » Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber et en frappa les eaux. Et il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Amen. Vous avez vu cette prière qu'il a faite, Élisée ? Est-ce que c'était une bonne prière ? Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Est-ce que vous auriez osé faire cette prière? Vous auriez peut-être demandé juste une simple portion, une simple mesure. Est-ce que c'était déjà bien? Pourquoi est-ce qu'Élisée a-t-il demandé la double portion? Alors qu'on discutait de ces choses il y a quelque temps, quelqu'un qui m'a dit une explication bizarre. Quelqu'un m'a dit, Élisée, il était complexé. Élisée était complexé par rapport à Élie, il se sentait 2 fois plus faible, donc il a demandé une double portion pour être au même niveau. Quand on étudie la parole de Dieu, sérieusement, quand on lit la façon dont cet homme a répondu à l'appel, vous lirez de quelle manière Élie a appelé Élisée. Vous voyez que cet homme, il a tout abandonné du jour au lendemain, alors qu'il avait de grands biens, une grande richesse. Il a même fait un sacrifice, il a sacrifié les 2 bœufs desquels il se servait pour travailler la terre. Cet homme, il a embrassé ses parents, mais il a dit, je m'en vais, je dois suivre ce maître qui est Élie pour devenir son successeur. Il a même donné la chair au peuple pour qu'il puisse manger. Donc il avait la générosité, il avait du zèle, il avait la consécration. Quand on voit avec quelle humilité, quelle patience, tous les jours, il lavait les mains d'Élie. Il était le serviteur pendant des années et des années. Il est resté un simple serviteur d'Élie. Mais il a assisté à tout ce qui s'est passé. Quand on voit avec quelle ténacité dans ce passage, il reste jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, il reste les yeux fixés sur Élie. Est-ce que vous pensez qu'il était complexé? Je ne crois pas du tout. D'ailleurs, pour aller encore plus loin, le fait de demander la double portion, ça ne signifie pas du tout qu'on est complexé. C'est simplement la demande normale quand on connaît la parole de Dieu. Il est question du droit d'aînesse et que celui qui était le frère aîné, il avait le droit à la double portion dans l'héritage. C'était comme ça que ça se passait dans la loi. Et quand Élisée demande la double portion du Saint-Esprit, il ne fait que dire qu'il veut être l'héritier spirituel d'Élie. Tout simplement. C'est-à-dire que le ministère d'Élie, qui était particulier, il savait qu'il allait prendre fin à ce moment-là, et lui voulait juste prendre la suite. Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'à un moment donné où il n'y avait pas beaucoup, il y avait peut-être beaucoup de prophètes ou de fils de prophètes, mais il n'y avait pas beaucoup d'hommes de Dieu véritables, est-ce que c'était bien qu'un jeune homme se lève pour dire « Moi, je vais prendre la suite. Moi, je vais travailler, même s'il y a des ténèbres dans le pays, même s'il y a de l'idolâtrie, même s'il y a la difficulté, moi, je veux me lever. Mais par contre, j'ai un besoin de quelque chose. » Qu'il y ait la double onction de ton esprit. Élisée, il est en train de dire, Élie, je respecte ton travail, mais j'ai besoin de continuer, et j'ai besoin que l'onction de Dieu puisse venir sur ma vie pour que je puisse continuer ce travail-là. Vous savez que par la foi, nous sommes les héritiers de Christ. On ne cherche pas à être à demander la double portion d'un homme de Dieu, mais on a l'esprit du Dieu Tout-Puissant qui est sur nous. Et le prix de l'onction, c'est la consécration et la persévérance. C'est ce qu'il a fait, Élisée. Il a persévéré. Et vous voyez que son attitude, elle est totalement, radicalement différente de celle des fils des prophètes. Les fils des prophètes, ils savaient qu'Élie, il allait être repris. Ils savaient tous, ils lui ont dit, ne sais-tu pas que ton maître est enlevé au-dessus de toi aujourd'hui? Ils savaient tous, ils avaient la connaissance. Mais qu'est-ce qu'elle a produit, cette connaissance, dans les cœurs? Qu'est-ce qu'elle a manifesté comme fruit? Rien. On le voit, aucun d'eux n'a manifesté le désir de rester avec Élie. Imaginez, je vais prendre un exemple pas spirituel. Imaginez que vous êtes un footballeur, un jeune footballeur qui veut monter les galons dans le football et que Zinedine Zidane vous dit qu'il va devoir partir, c'est son dernier jour, demain il va mourir et qu'il est prêt à vous partager tous ses conseils. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez absolument vouloir passer les derniers moments, la dernière journée avec lui. Mais ces hommes qui étaient là, qui étaient des fils de prophètes, et ils avaient le grand prophète Élie qui était enlevé dessus leur tête, ils ne voulaient pas passer, même ne serait-ce que quelques minutes avec lui. Vous imaginez? Les fils des prophètes, théologiens pensent que c'est une école de prophètes qui existait. Chaque ville, il y avait des écoles de prophètes. Mais c'était beaucoup de théoriciens. Parce que là, ils ont la possibilité de faire comme Élisée, il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché avec Élie. Il a suivi de près. Et le moment où Dieu est venu l'enlever, ils étaient encore en train de discuter. Et sûrement qu'Élie lui donnait des conseils, lui parlait du Seigneur, lui partageait des choses par rapport à la loi et par rapport à des expériences qu'il avait faites. Et le cœur d'Élisée était en train de brûler encore pour le Seigneur. Alors que les fils des prophètes, ils étaient restés surtout pas s'engager dans le Jourdain, surtout pas franchir ces étapes-là. Vous savez que le Jourdain, ça nous parle de la mort. Je ne voudrais pas revenir sur ces explications qu'on a déjà entendues. Mais c'est drôle de voir que ces fils des prophètes, ils n'étaient pas là au Gilgal. Vous voyez, il n'y a aucune trace d'eux à Gilgal. Gilgal, c'est le moment où on se repent à la croix. Et ils ne sont pas là non plus au Jourdain quand on meurt à nous-mêmes et qu'on accepte que Jésus vive en nous. Mais Élisée, lui, il y était. Et Élisée, il a tenu bon jusqu'au bout. Et voilà pourquoi cet homme, il a pu reprendre le manteau d'Élie. Et on voit que cet homme, il a commencé son ministère exactement à l'endroit où Élie il a arrêté. Élie, il a arrêté. L'un des derniers miracles qu'il a fait, c'est d'ouvrir le Jourdain. Le premier miracle qu'Élisée fait, c'est d'ouvrir le Jourdain. Cet homme a continué la route. Mais il a pu le faire parce qu'il a persévéré. parce qu'il a eu cette consécration. Il n'a pas écouté les paroles des uns et des autres, mais il a choisi de suivre son maître. Il a choisi de profiter de ses derniers moments quand il a entendu cette demande particulière. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. C'était justement après le Jourdain, après toutes ces étapes. S'il s'était arrêté avant, il n'aurait jamais entendu cette parole. Et parce qu'il a franchi toutes ces étapes. À quelle étape est-ce que nous sommes? Ça, c'est à chacun de répondre. Mais est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'à là où le Seigneur veut nous amener pour que son onction soit déversée sur notre vie? Je ne pose même pas la question si nous voulons l'onction de Dieu, parce que c'est évident qu'un chrétien, quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui veut être utile entre les mains du Seigneur, il désire être rempli de l'onction de Dieu. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix de l'onction? Est-ce que nous sommes prêts à suivre l'exemple de cet homme? Est-ce que nous voulons faire cette prière? Seigneur, qu'il y ait sur moi l'onction. Qu'il y ait sur moi l'onction. Je désire, Seigneur, être rempli de toi. Quand on regarde comment cet homme a été béni par la suite, certains disent que le nombre de miracles qu'il a fait, c'est exactement le nombre, deux fois plus de miracles qu'Élie. Mais comment cet homme a été béni? Comment cet homme pouvait voir des choses? Il avait des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Il avait toutes sortes de choses qui étaient là parce qu'il avait reçu l'onction de Dieu. Est-ce que, frères et sœurs, ce soir, nous ne voulons pas faire cette simple prière? Qu'il y ait sur moi l'onction. Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Je sais que j'en ai besoin, mais je veux prendre ce temps ce soir pour te la demander. Et je voudrais finir avec cette troisième prière dans 2 Chroniques, chapitre 1er. Accorde-moi la vie, qu'il y ait sur moi l'onction. Et nous devons demander une troisième chose, la sagesse. 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 7, c'est l'histoire de Salomon, qu'il a convoqué tout le peuple d'Israël pour chercher l'Éternel. Et au verset 7, pendant la nuit, Dieu t'apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Amen. Est-ce que ça a plu au Seigneur cette parole? Bon, quand vous lisez la suite, vous le voyez. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Amen. On pourrait s'arrêter là, c'est super. Le Seigneur, il exauce. Mais en plus, je te donnerai en outre des richesses et des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Est-ce que le Seigneur, il est bon? Est-ce que le Seigneur est béni? Même quand on fait une petite prière. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Oui, voici de la sagesse. Est-ce qu'on a le droit de demander au Seigneur de la sagesse? Bon, là, on voit qu'un homme qui l'a fait et qui a été plus que béni, abondamment béni. Mais même on voit que c'est écrit dans la parole, dans Jacques, il est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. S'il y a bien quelque chose que nous pouvons demander au Seigneur, c'est de la sagesse. Mais vous avez remarqué avec moi que Salomon, il ne demande pas n'importe quelle sagesse. Son but, ce n'est pas d'être le plus intelligent. Son but, c'est de pouvoir le mieux se conduire à la tête de ce peuple, par rapport à tous ses devoirs, par rapport à toutes ses responsabilités qu'il aura en tant que roi, il a besoin d'une sagesse particulière. Et je vous pose la question ce soir, quelle est votre position? Sur quoi êtes-vous appelé à régner dans votre vie? Et je vous réponds en même temps, en tant que chrétien, vous êtes appelé à régner sur votre cœur et à régner sur le péché en particulier. En tant que chrétien, c'est ça sur quoi vous devez régner. En tant que mari ou femme, vous êtes appelé à régner sur votre couple. Des fois, on se trompe, on pense qu'on doit régner sur notre épouse ou l'épouse doit régner sur le mari. Ce n'est pas ça. On doit régner sur le couple, les deux ensemble, pour que ça marche. Est-ce qu'on demande au Seigneur la sagesse si on est marié? Est-ce que si on est un simple chrétien, on demande la sagesse au Seigneur pour pouvoir résister à la tentation, pour pouvoir être plein de force face aux attaques de l'adversaire? Est-ce que nous sommes de ceux qui disent « Seigneur, accorde-moi l'intelligence pour que je me conduise bien ?» Pierre dit « Montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. » C'est exactement ce qu'on est en train de partager. De la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse. Vous savez que le prix à payer pour avoir de la sagesse, c'est de réaliser son besoin et son devoir. Si on a des responsabilités, si Dieu nous permet de vivre certaines choses qui ont des responsabilités, alors on a besoin de toute la sagesse de Dieu pour pouvoir bien se conduire. Salomon, sa responsabilité, c'est qu'il était roi et ce n'était pas rien. Mais pour chacun d'entre nous, il y a quelque chose. En tant que parents, nous avons une responsabilité sur nos enfants. Est-ce que nous demandons la sagesse pour bien instruire nos enfants? Est-ce que nous prenons du temps pour prier avec nos enfants? Des fois, on entend des personnes qui ne prient jamais avec leurs enfants. Est-ce que nous prenons du temps pour apprendre ou raconter des histoires à nos enfants? Ou on dit, mais non, mais ça c'est à l'église, c'est les animateurs qui doivent le faire, c'est pas nous. Oui, mais les animateurs, est-ce qu'ils sont responsables de vos enfants devant Dieu? Ils en sont responsables le temps de l'école du dimanche. Mais tout le reste du temps, c'est-à-dire 99% du temps, c'est vous qui êtes responsable. Et nous avons besoin de demander, je dis vous, je dis nous, parce que je suis dedans aussi. Nous avons besoin de demander au Seigneur la sagesse. Et moi, c'est une prière que je fais tous les jours. Seigneur, accorde-moi la sagesse pour que je puisse être ce père que tu veux pour mes enfants. Pour que je puisse être ce mari que tu veux pour mon épouse, pour que je puisse être en tant que pasteur, ce pasteur que tu veux pour les brebis. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Combien c'est dangereux de dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de ton aide. Vous savez que le fait de ne pas demander la sagesse, c'est de dire, ben, je suis suffisant. Je suis suffisant par moi-même, je n'ai pas besoin de ton aide. Il n'y a pas besoin de le prononcer. Le fait de ne pas le demander, c'est une preuve. Je voudrais finir avec ce passage. Dans Jacques chapitre 3, verset 13, justement, il est question de cette sagesse que nous devons demander. Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Vous avez vu ce qu'il est dit? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Quelqu'un qui a de la sagesse, ça va se voir dans la bonne conduite qu'il va manifester. Et peut-être que c'est là un élément qu'on a besoin de voir, c'est de se dire que si il y a des mauvaises choses qui ressortent de ma conduite, c'est que j'ai besoin de courir dans la présence de Dieu et de dire « Seigneur, accorde-moi ta sagesse ». Parce que s'il y a quelque chose qui ressort qui est mauvais, ça veut dire que je manque de sagesse. Ça veut dire que la sagesse dont je suis animé soi-disant, ce n'est pas celle qui vient d'en haut. C'est la sagesse charnelle. C'est je compte sur mes propres forces. C'est je compte sur peut-être mes amis. Alors que le Seigneur m'appelle à venir puiser dans sa présence. Est-ce que vous croyez que Dieu est sage? S'il y a bien quelqu'un dans l'univers qui est sage, c'est celui qui a créé l'univers. Est-ce que vous croyez qu'il veut nous donner la sagesse? Il a permis que ces versets soient écrits dans sa parole. Il y a une sagesse qui vient d'en haut. Mais cette sagesse qui vient d'en haut, elle ne se retrouve que dans la présence de Dieu, que quand quelqu'un qui est animé par le désespoir de sa faiblesse, le désespoir de son manque de force, animé de cet esprit-là qui vient réclamer dans la présence de Dieu. Accorde-moi la sagesse et l'intelligence pour que je puisse me conduire bien. Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous ce soir? Quel est votre désir? On va incliner nos fronts, fermer les yeux. C'est tellement simple ce que je vous partage ce soir. Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous? Que veux-tu que je te fasse, te dit le Seigneur. comme il a dit à Bartimée. Bartimée, malgré son aveuglement physique, il était clairvoyant spirituellement. Il avait compris ce dont il avait besoin et il avait compris que Jésus seul pouvait lui donner. C'est pour ça que malgré les cris, malgré les gens qui le faisaient taire, il a choisi de crier encore plus fort. Il a choisi de persévérer et il a recouvré la vue. Il a vécu le miracle qui se vit seulement dans la présence de Dieu. La reine Esther, elle a choisi de passer du temps avant de se présenter dans la présence du roi des rois et d'obtenir la vie pour son peuple. Élisée, il a choisi de persévérer aux côtés de son maître. Il a choisi d'être tenace. Il a choisi de s'accrocher à la promesse, malgré tout ce qu'il pouvait entendre, et de la part d'Élie, et de la part des fils des prophètes, de ceux qui avaient que le nom de prophète. Cet homme, lui, a choisi de marcher dans la vérité. Cet homme, lui, a choisi de se consacrer, et il a obtenu l'onction. Salomon, devant la tâche immense qui était la sienne, a choisi de passer du temps devant Dieu. Il est dit qu'il a eu un songe pendant la nuit, on ne sait pas s'il dormait, peut-être qu'il cherchait la face de Dieu pendant toute la nuit. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Dieu lui a parlé. Et que face à cette prière toute simple, « Accorde-moi la sagesse », il a obtenu une bénédiction, non seulement pour lui, mais pour tout son peuple. Voilà pourquoi ce soir, nous pouvons avec assurance demander au Seigneur qu'il accorde la vie à celui qui est fatigué, celui qui est découragé, celui qui peut-être qui est comme Jonas qui dit plutôt « Reprends-moi la vie, Seigneur ». Le Seigneur, il te dit « Non, demande-moi la vie, demande-moi le souffle nouveau, demande-moi le zèle, la ferveur, demande-moi le courage et je te l'accorde ». À celui qui veut être plus efficace entre les mains du Seigneur, le Seigneur te dit « Demande-moi l'onction ». Combien Dieu est intéressé à nous donner son onction ? Dieu ne donnera-t-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? C'est la parole qui nous le dit. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ qui le dit. Voilà pourquoi nous pouvons réclamer avec foi l'onction de Dieu sur notre vie. Et nous pouvons la rechercher dans la présence de Dieu, cette onction, dans cette consécration, dans cette marche, dans l'obéissance. Ce soir, quelle est la prière que vous voulez faire au Seigneur ? Que dans ces moments, alors que le Saint-Esprit parle à chacun de nos cœurs, que vous puissiez faire une simple prière et que vous puissiez recevoir l'exaucement de cette prière. Éternel, nous te bénissons. Te bénissons pour ta sainte parole. Te bénissons parce que, Seigneur, tu te plais à donner à tes enfants ce qui est bon pour eux. S'ils te demandent du pain, Seigneur, tu leur donnes du pain. S'ils te demandent de la sagesse, s'ils te demandent l'onction, s'ils te demandent la vie, Seigneur, tu leur donnes ces choses parce que ce sont des bonnes choses, parce que ces choses, non seulement elles nous amènent à être bénis, mais elles amènent les autres autour de nous à être bénis, Seigneur. Alors ce soir, oui, nous voulons réclamer la vie pour chacun d'entre nous, un zèle nouveau, Seigneur, une vie nouvelle pour celui qui ne te connaît pas. Nous voulons réclamer, Seigneur, aussi, que les gens qui sont dans les ténèbres et dans la mort passent de la mort à la vie, Seigneur. Merci aussi de permettre que ceux qui sont rétrogrades, ceux qui sont comme les fils prodigues, puissent, Seigneur, aussi revenir à la vie. Merci parce que tu as permis que ces choses soient écrites pour notre instruction, surtout pour notre édification, Seigneur. Que ce soir, nous puissions prier en nous appuyant sur ta parole. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est éternelle, parce qu'elle est cette parole solide sur laquelle nous pouvons fonder toute notre vie. Merci, Éternel, de bénir chacun et chacune. Oui, nous voulons entendre ta voix qui nous dit « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Et nous voulons répondre à cette question en te demandant des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Merci Éternel. Amen.